3 morts par jour dans des accidents mortels. Sans parler du burn-out, sans parler des suicides au travail, etc. La façon dont les employeurs français veillent sur la santé des salariés, c'est pas au top, effectivement, comme disent les jeunes, c'est pas au top.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Danielle Linhart, une des plus grandes sociologues du travail en France, qui en observe et en analyse les grandes transformations. Elle explique notamment comment, au fil des décennies, la pression sur les salariés s'est progressivement accentuée, leur demandant toujours plus d'implication.
On va demander à chacun de chercher à se dépasser en permanence, d'essayer de se révéler à lui-même en même temps qu'il se révélera à sa hiérarchie.
Elle observe comment aujourd'hui le management se focalise sur des sphères toujours plus personnelles et intimes, comme les affects ou les émotions.
On demande maintenant aux jeunes qu'on va recruter qu'ils aient toutes ces qualités humaines, personnelles, affectives, émotionnelles.
Ce qui, selon elle, conduit à une dépolitisation de la question du travail, qui reste pourtant un des enjeux les plus structurants de notre organisation sociale.
Là, on est dans un esprit de concurrence qui va faire voler en éclats, évidemment, le sentiment de solidarité, le sentiment d'avoir un destin commun.
Alors, comment changer tout ça ? Eh bien, ensemble, on va revenir sur les différentes pistes possibles, et notamment la solution qu'elle privilégie, la remise en question du lien de subordination qui soumet les salariés à leurs employeurs.
C'est terrible d'être là à ramper en disant « je vous suis subordonné, s'il vous plaît, acceptez de me considérer comme un salarié ». Dès que vous entrez dans une entreprise, vous entrez dans un statut de personne vouée à l'obéissance permanente.
Bonjour Danielle Linhart.
Bonjour.
Merci d'être là, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Très bien. Donc Danielle Linhart, vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous traitez plein de sujets qui me passionnent, notamment vous êtes spécialiste de l'évolution du monde du travail et des nouvelles stratégies managériales. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages dont on va parler, comme « La comédie humaine du travail en 2015 » et « L'insoutenable subordination des salariés en 2021 ». Est-ce que ça vous va comme présentation ?
Tout à fait, merci beaucoup.
Pour démarrer, ça m'intéresse de comprendre un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé à travailler ces sujets-là.
À travailler sur le travail ou sur les stratégies managériales ?
Comment est-ce que vous avez choisi la sociologie du travail et ces sujets managériaux ? Est-ce qu'ils se sont imposés à vous ? Est-ce que c'est vous qui aviez envie de vous pencher là-dessus ?
Alors, le travail, je pense que c'était une dimension extrêmement importante pour essayer de comprendre le fonctionnement de la société. Moi, j'étais très intéressée par ce fonctionnement de la société et notamment par la façon dont les citoyens étaient disciplinés, acceptaient les élections, les gouvernements, la loi, la police. Et il me semblait que la base d'où venait cette, disons, discipline, ce respect de la hiérarchie, ça venait du travail. Ça venait du travail. Et je crois que je me suis pas tellement trompée parce qu'encore récemment, j'avais vu des enquêtes faites par des politologues qui montraient que lorsqu'une entreprise fermait, par exemple, eh bien, on s'apercevait sur le plan des élections qu'il y avait soit une montée extrêmement forte de l'abstention, soit une montée extrêmement forte aussi du vote à l'époque du Front National. Donc effectivement, les événements en termes d'emploi avaient une répercussion quasi immédiate sur le vote et sur le positionnement politique.
Et sur la société en général, j'imagine.
Et donc sur la société en général, effectivement. Et les stratégies managériales, c'est parce que on s'occupait beaucoup du temps où je commençais à faire de la sociologie du travail, de ce qu'on appelait les qualifications, les postes de travail, les conditions, le contenu, enfin tout ce qui était objectivable. Et voilà, c'était extrêmement sérieux. Et moi, je me disais, tout ça dépend quand même de ce qui se passe en haut, des décisions, à l'époque, on disait patronales. Et je me disais en quoi tout ça donne lieu à des stratégies d'organisation et de mobilisation des travailleurs. Et je remontais un petit peu comme ça le fil. Et c'est passionnant de s'intéresser aux stratégies managériales.
C'est quoi les grandes transformations ?
Ah, moi, j'ai commencé à m'intéresser à partir de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, vous savez, les années 50, 60, 70, où il y avait beaucoup de croissance, où notre économie était essentiellement industrielle et où le travail était objectivement positionné comme un enjeu politique. parce que notamment le Parti communiste français mettait en avant le problème, la question en tout cas de l'emploi, de l'exploitation, du salariat, et puis il y avait une CGT qui était extrêmement puissante, très combative, il y avait un rapport de force, on pensait en termes de lutte des classes. À cette période-là, le travail, l'emploi était considéré comme un enjeu fondamentalement structurant de la politique du pays.
Ce qui a changé, c'est quoi? Le travail est plus structurant aujourd'hui ou alors il est dépolitisé ou...
Malheureusement, il est dépolitisé, il est extrêmement structurant, il reste totalement structurant de notre société, bien sûr, mais il est dépolitisé. Il s'est éclaté en micro-enjeux diversement déclinés et jusqu'à ce qu'on peut appeler maintenant une politique managériale qui vise à mobiliser des égos, c'est-à-dire des individus, des personnes, des affects, des émotions.
Ouais, bah justement, vous avez donc en 2015 publié un livre qui s'appelle La comédie humaine du travail. Ma première question sur cet ouvrage, c'était pourquoi l'avoir intitulé comme ça, c'est-à-dire la comédie humaine, pourquoi cette référence?
Parce que c'est vraiment le terme de comédie qui me paraissait très approprié. Il me semble que depuis mai 68, justement, où le patronat a été largement défié et a eu très peur. En 68, il y a eu 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, qui était la plus longue grève du XXe siècle, plus longue encore que durant le Front populaire, et qui n'avait pas été déclenchée par les syndicats, donc qui était encore plus difficile à négocier pour le patronat qui n'avait pas les bons interlocuteurs en face de lui. À partir de ce moment-là, il y a eu un effort très intense du patronat pour essayer de trouver une solution pour que les jeunes, notamment les ouvriers, les ouvrières, les employés, reprennent le chemin des entreprises et acceptent les règles du jeu de l'ordre social capitaliste. Parce que c'était ça qui était remis en question. Ces grèves, c'était ce qu'on appelait les grèves du ras-le-bol. Vous savez, qui étaient déclenchées spontanément, les ouvriers, les ouvrières jetaient les outils en l'air, disant « il y en a marre, on peut plus continuer comme ça », ils sortaient dans la cour, et là, les militants syndicalistes les rejoignaient et disaient « mais on va négocier avec la direction des augmentations de salaire ». C'était pas ça dont il s'agissait. Il s'agissait d'un désir d'un autre travail, où on puisse être reconnu dans son travail, où on puisse avoir une influence sur ses missions. On demandait de la dignité, un minimum d'autonomie, de respect du travail effectué.
C'est intéressant parce que effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse demande de changement à ce moment-là. Et après ça, dans les décennies qui ont suivi, il y a effectivement eu des changements, mais
de l'ordre de la comédie.
Et du coup, c'est pour ça que vous parlez de comédie.
Oui, parce que il y a eu une mise en scène extraordinaire sur la base d'un mea culpa. Oui, vous avez raison, nous n'avons pas bien compris, nous, le patronat, que vous vouliez être reconnu, avoir plus de primes, de promotions en fonction de la qualité de votre engagement dans le travail. Nous allons faire tout ça, nous avions complètement tort. Maintenant, nous sommes convaincus que l'intelligence de nos salariés, leur volonté de faire du bon travail, c'est notre richesse immense et nous allons tout faire pour ça. Et alors, effectivement, ils ont commencé à transformer totalement les choses et à chaque fois avec un discours, une mise en scène, la mobilisation de psychologues, de sociologues, d'économistes, de psychanalystes et puis progressivement après de spécialistes du développement personnel.
Tous ces exercices concourent efficacement à éliminer la fatigue et la productivité s'en est trouvée sensiblement améliorée.
Votre livre, il est sous-titré « De la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale ». Est-ce que, déjà, vous pouvez rappeler en deux mots simples ce que c'était que la déshumanisation taylorienne? Et du coup, pourquoi est-ce que vous rapprochez ces deux notions qui semblent a priori opposées?
C'est-à-dire que Taylor, il était, à son époque, il était un consultant à la fin du 19e siècle aux États-Unis et il observait la façon dont le travail était organisé. Alors à l'époque, c'était les ouvriers de métier et les compagnons qui décidaient de l'organisation de leur travail et donc de leur rythme de travail. Tout simplement parce que le businessman qui apportait le capital ne connaissait rien au métier. Il était obligé de s'en remettre aux ouvriers de métier. Et ceux-ci, disait Taylor, ils étaient très précautionneux et ne voulaient pas mettre en danger leur santé physique et donc avaient adopté un rythme de travail qui était celui dont ils pensaient qu'ils pouvaient éviter les accidents, une usure précoce des corps. Mais disait Taylor, ça se concrétise par une productivité beaucoup trop faible. Et il disait, et le problème, c'est que ceux qui en pâtissent, c'est pas le capitalisme, parce que moi je prends pas position, disait-il, idéologiquement, entre le patronat et les ouvriers, mais je me situe en fonction du bonheur américain, c'est-à-dire les intérêts supérieurs de la nation et des consommateurs qui veulent une productivité plus élevée pour avoir des biens en abondance sur le marché à un prix abordable. Donc Taylor disait, il faut changer tout ça. Et il disait, le seul moyen, c'est de déposséder les ouvriers de leur savoir et de le donner à des ingénieurs qui, eux, en fonction de la science, vont pouvoir trouver un moyen d'organiser le travail pour une productivité la plus élevée possible.
Donc
voilà,
ce qu'il appelait
la one best way, la meilleure et optimale façon de produire. Et il disait, et ce à quoi il faut aboutir en réalité, c'est à ne pas dépendre du tout de l'état d'esprit des travailleurs, de leur bonne ou mauvaise volonté. Il faut qu'ils soient considérés comme des ressources presque au même titre que un matériau ou une machine. Voilà.
Standard.
Ils doivent exécuter leurs tâches. Alors, voyez dans quoi, ils étaient là, on va les augmenter plus, et puis on prendra soin de leur santé, etc., etc. Mais il faut pas qu'ils imposent leur point de vue, ni d'humain, ni de professionnel. Voilà. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont un rouage de la production.
Et donc c'est ça que vous appelez la déshumanisation taylorienne. Oui. Vous opposez ça à une surhumanisation managériale actuellement. Alors, est-ce que vous pouvez me définir un peu ce que vous entendez derrière ça et quel rapport entre les deux?
Alors, si vous voulez, à partir contre mai 68, du post-mai 68, les directions des entreprises se sont dit il nous faut faire un retournement extrêmement important et nous allons désormais miser sur ce qui est spécifiquement humain. Voilà. Donc c'est l'inverse. Il fallait réduire, selon Taylor, l'ouvrier au même état que les machines. Là, au contraire, il faut miser sur ce qui est spécifique, c'est-à-dire son désir de reconnaissance, de dignité, sur sa capacité à vouloir bien faire, à écouter les directives, etc., etc. Et donc il y a un retournement qui s'est traduit par une individualisation systématique de la gestion des salariés, de l'organisation de leur travail, pour casser les collectifs. Parce que c'était au sein des collectifs que mai 68, collectif informel, c'est-à-dire un groupe d'ouvriers sur une chaîne, un groupe d'employés dans un bureau, et c'était eux qui portaient les valeurs de la contestation et la transformer en enjeu politique le travail, justement.
Et du coup, pour enlever cet enjeu politique, l'idée, c'est de surhumaniser les personnes.
C'est-à-dire de miser sur l'aspiration de chacun à être bien vu par sa direction, à se faire reconnaître, à avoir les plus belles primes, les plus belles promotions. Et donc, chacun, notamment dans cette nouvelle stratégie managériale, va avoir des objectifs individualisés. Et puis, au bout d'un an, des évaluations personnalisées et des primes et même des salaires individualisés. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'équation à travail égal, salaire égal, pour entrer dans un monde où tout le monde sera mis en concurrence les uns avec les autres, chacun voulant avoir les meilleures évaluations pour avoir les meilleures primes et même les meilleurs salaires pour un poste identique. Donc là, on est dans un esprit de concurrence qui va faire voler en éclats, évidemment, le sentiment de solidarité, le sentiment d'avoir un destin commun, de partager des valeurs. Là, c'est vraiment chacun pour soi. Alors, non seulement le patronat va mettre en concurrence chacun avec les autres, mais chacun avec lui-même. Parce qu'on va demander, et c'est là qu'on est dans la manipulation psychologique, on va demander à chacun de chercher à se dépasser en permanence, d'essayer de se révéler à lui-même en même temps qu'il se révélera à sa hiérarchie. Et en gros, c'est montrer qu'il est réactif, qu'il vise l'excellence, violence, qu'il est résilient, et puis maintenant qu'il est apte au bonheur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va pas plomber l'atmosphère. On demande maintenant aux jeunes qu'on va recruter qu'ils aient toutes ces qualités, et on va faire la gestion des émotions, le management des affects, c'est-à-dire que au lieu de prendre en compte seulement la professionnalité, c'est-à-dire la formation, l'expérience, les compétences, etc., on va juger le ce qu'on appelle le savoir-être. Est-ce que la personne a toutes ces qualités humaines, personnelles, affectives, émotionnelles qui vont être en phase avec ce qu'on appelle aussi l'ADN de l'entreprise.
Là-dessus, il y a un côté contre-instinctif, c'est-à-dire on peut se dire bah, c'est quand même cool de ne pas être vu comme un numéro, comme un maillon de la chaîne, d'être un peu reconnu à sa juste valeur, à ses aspirations, etc. Et du coup, où est-ce qu'il... Quel est le piège dans tout ça? Alors, pourquoi est-ce que vous dénoncez ça? Là où, quand on arrive dans une entreprise, a priori, on peut se dire « Ah ben, les gens, ils sont cool, ils font attention à moi, ils me posent plein de questions, ils me demandent qui je suis, ce que je veux dans la vie, etc. » Donc, où est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, la question est celle des justes aspirations. Quelles sont ces justes aspirations? Est-ce que c'est de marcher sur la tête des collègues et des concurrents? Est-ce que c'est de passer son temps jusqu'au burn-out pour avoir les meilleurs résultats? Est-ce que c'est de ne pas viser la finalité, la qualité du travail, son utilité sociale, mais remplir des chiffres, des cases, pardon, pour montrer qu'on a fait les meilleurs chiffres? Quels sont ces justes aspirations? Est-ce que c'est celles qui sont dans l'esprit de la concurrence, je veux m'imposer, je veux marcher sur les autres, je veux être le meilleur? Ou est-ce que ce serait des aspirations pour coopérer ensemble, pour faire un travail qui a du sens, un travail de qualité, qui prend en compte les réels besoins des destinataires de son travail? C'est là qu'il y a une comédie, parce que on dit, nous sommes vraiment préoccupés par la dimension humaine. On vous aime, vous savez que les DRH font des déclarations d'amour maintenant. Ils disent souvent, tous les matins, on se lève en pensant à vous. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer votre environnement de travail, vous apporter plus de douceur, plus de confort? À vous doudouner, vous coucouner, vous allez être heureux chez nous parce que nous, on pense qu'à votre bonheur. Mais en attendant, vous allez vraiment travailler comme on vous dit qu'il faut que vous travailliez et c'est là qu'on va vous reconnaître et tout ça. Et tout ça. C'est une vraie comédie.
Ces ateliers font partie d'un programme complet établi par la team Bien-être Yango, une société tarnaise qui accompagne les entreprises dans leur politique de qualité de vie au travail.
Le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est une expérience socialisatrice qui est dans la coopération où on participe à la pérennisation de la société, qui a un sens, une finalité sociale. Là, c'est une épreuve solitaire où chacun va essayer de marcher sur la tête des autres. Par exemple, moi, j'ai pu faire une enquête dans une entreprise qui produisait des biscottes. Il y avait une chaîne de montage. Et sur cette chaîne de montage, les opérateurs avaient des objectifs personnalisés, des évaluations personnalisées, et ils étaient tous considérés comme les clients fournisseurs des autres. C'est-à-dire que celui qui était là, par exemple à ma gauche, sur la chaîne de montage, c'était mon fournisseur. Okay. Moi, j'étais son client, et moi, j'étais le fournisseur, la fournisseure de celui qui était là. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est ça que j'appelle la comédie humaine du travail. On fait comme si on était client fournisseur, comme si on avait les objectifs personnalisés qui prennent en compte mes capacités, mes aspirations, mes possibilités. Mais ça c'est pas du tout le cas.
Le fait qu'on sur-individualise le travail, il y a un moment un déficit de collectif. Est-ce que c'est pour ça qu'on a vu naître tous les délires de team building et tout ça?
Ah ben, le team building, c'est une manière artificielle de recréer une coopération qui normalement se met en œuvre de façon spontanée en fonction des besoins productifs. Alors dans le tertiaire comme dans le secondaire, demander à quelqu'un dont on sait que c'est une personne ressource des conseils sur un plan pour lequel on n'est pas certain, c'est demander de la solidarité parce que on n'arrive pas à lever quelque chose, c'est trop lourd. Ce sont des relations spontanées de solidarité productive qui se mettent en place pour que le travail se fasse bien dans le respect des uns et des autres et dans la prise en considération des problèmes ou des difficultés que peuvent avoir à certains moments donnés les uns ou les autres. Or, comme tout ça a été mis en danger, a volé en éclats, bien il faut recréer un minimum de coopération, mais qui sera sous influence, selon des valeurs qui vont être imposées par la hiérarchie, dans des limites extrêmement pensées d'avance, avec un sens préétabli. Alors que là, c'est le sens, il se fait au fur et à mesure des besoins du terrain, de la réalité des situations. Non, le team building, c'est penser et imposer, disons artificiellement, un esprit d'équipe à des gens qui sont en réalité mis en concurrence systématique.
Ok, donc là, c'est une première grosse contradiction, c'est de...
Ah oui, des relations, elles s'établissent naturellement. Quand un nouveau arrive, on lui dit, viens, on va te mettre au courant, on va t'expliquer. Par exemple, dans les situations industrielles, fais gaffe, parce qu'on te dit de faire comme ça, mais c'est dangereux. Tu ferais mieux de faire comme nous, on va te montrer, parce que là, etc. C'est-à-dire que c'est une sorte de partage de savoir, d'attitude...
D'expérience
qui sont,
aussi.
Voilà, d'expérience. Expériences qui sont nécessaires pour faire dans les meilleures conditions possibles son travail. Et ça, c'est le collectif qui s'en charge naturellement.
Mais j'ai quand même le sentiment que c'est devenu un enjeu assez fondamental pour beaucoup d'entreprises, aussi beaucoup de grands groupes qui essayent un peu d'en mettre plein la vue, d'organiser des séminaires annuels où il y a beaucoup de dépenses, parfois dans des châteaux, parfois dans des voyages, à la plage. Enfin, il y a vraiment un objectif d'en mettre plein la vue aux salariés, des fois pour les récompenser, des fois pour créer un espèce de ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ?
Beaucoup, beaucoup de malaise, beaucoup de méfiance par rapport à ça. Moi, je me souviens, j'avais été, c'était il y a une trentaine d'années, je pense, peut-être un peu moins, à un séminaire qui avait été organisé par un patron qui reprenait des entreprises en difficulté. Et il a dit, avant de donner mon accord pour reprendre cette entreprise, je vais proposer à l'équipe de direction d'accepter de faire une expédition dans la jungle, en Amérique latine. Ils vont être déposés par un hélicoptère avec une boussole, de l'eau, pas de nourriture. Et une semaine plus tard, ils vont être repris à un certain lieu par l'hélicoptère. Et il a dit, il se tournait vers nous, voilà, c'est comme ça qu'on peut mesurer la capacité face aux difficultés, parce que c'est pas évident de vivre dans la jungle, de se nourrir, etc., de se protéger, de s'abriter, etc. Et voilà, j'ai été convaincue, j'étais vraiment convaincue. Bon, même si ça s'est pas très bien passé, disait le monsieur, puisque, bon, là, il y avait une femme, elle a subi un viol. Mais quand même, l'équipe a tenu. Et sur cette réalité-là, je me suis dit, je peux faire confiance à l'équipe de direction, ils vont tenir le coup, et j'ai repris l'entreprise. Voilà, donc l'esprit d'équipe, c'est vraiment un concept qui est très variable selon l'idéologie qu'on peut avoir. Je ne sais pas si on est uniquement dans la séduction de dire regardez tout ce qu'on fait pour vous, mais c'est aussi une pression très très forte sur les gens, comme si le manager avait inventé un jeu dont il tenait toutes les ficelles et fallait voilà, s'y prêter. C'est pas parce qu'on est subordonné qu'on n'a pas une attente par rapport au travail et une capacité d'engagement dans le travail, soi-même et en équipe aussi. Ce qui est très intéressant, et j'ai une collègue qui s'appelle Aurélie Janté qui a travaillé cette question et qui montre qu'il y a un management des émotions, mais surtout un tri des émotions. On ne joue pas sur toutes les émotions. Certaines, on va les prendre. Celles qui sont justement susceptibles de vulnérabiliser les gens en leur faisant peur, en les mettant dans des situations impossibles, etc. Les émotions de solidarité, la capacité de s'indigner, de refuser, etc. Ça, c'est nettement mis de côté. Je suis allée dans une entreprise, c'était à Lyon, où j'ai vu un panneau recouvert de photos des salariés avec leur définition psychologique. Alors, c'était plutôt extraverti, qui a peur de ci, qui a peur... Enfin, qui déclinait toutes leurs caractéristiques psychologiques. Je me dis, mais c'est quand même étrange, pourquoi ? Ah, parce que quand on va aborder son collègue, c'est bien de savoir comment l'aborder. On va pas aborder quelqu'un de la même manière, qui est extraverti, qui est introverti, quelqu'un qui aime beaucoup parler, ou quelqu'un qui... Voilà. Enfin, je veux dire, si on doit en passer par là pour avoir des relations, soit de travail, soit autour d'un café à la cafétéria.
C'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Il y a quelque chose qui marche pas, bien sûr, ouais, ouais. Bien sûr.
Moi, il y avait une histoire que j'avais lue sur Reddit que je vous avais envoyée. C'est team building où les gens sont invités à se confier, à raconter des histoires traumatiques.
Absolument.
Dans un cadre de, comme ça, vous connaîtrez mieux vos collègues.
Voilà.
Vous collaborerez mieux parce que vous savez que, dans l'enfance, telle personne a souffert ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'inspire que j'ai fait une fois une interview avec une jeune femme qui m'expliquait qu'elle était tombée sur une hiérarchie qui lui avait fait ça. Dis-moi qui tu es, comme ça je m'occuperai mieux de toi, etc., etc., etc. Et elle lui avait confié, par exemple, qu'elle avait été boulimique quand elle était jeune et qu'elle se faisait vomir. Enfin, tout ça, elle lui avait confié. Eh bien, cette femme hiérarchique, elle jouait régulièrement là-dessus en réunion. Ah, tu vas pas nous faire la boulimique encore. Bon, elle jouait là-dessus tout le temps pour la mettre, quand elle jugeait nécessaire, en difficulté. Ça n'a aucun sens de mettre noir sur blanc toutes ses faiblesses, toutes ses difficultés. Quel intérêt ? Imaginez, vous allez vous faire opérer et votre chirurgien vous dit « Allez, je vais vous dire la vérité, moi j'ai eu une période d'alcoolisme très très forte. Bon, là ça va mieux. Bon, je suis encore un peu... mais vous allez partir en courant, si vous pouvez. » Non. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Chacun prend sur soi pour être au bon niveau au travail. Et ça s'appelle un rôle professionnel qui différencie de la personne que vous êtes. Quand vous êtes, par exemple, médecin, vous avez une blouse blanche, ben ça a un sens. Quand vous êtes pompier, vous avez un uniforme. Bon, là, peut-être c'est par nécessité, mais bon, il y a des uniformes parce que effectivement, on épouse sa fonction, on se confond avec elle et on fait fi de ses propres faiblesses, difficultés, parce qu'on veut être à la hauteur de la fonction et donc du rôle professionnel. Si vous mettez l'accent uniquement sur le personnel, vous vulnérabilisez complètement la personne.
En fait, ça veut dire que dans cette idée de comédie humaine du travail, il y a quand même quelque chose à en sauver et quelque chose qui est intéressant, cette histoire de rôle,
oui.
De rôle du travail, oui. C'est-à-dire que de remettre... En fait, les gens qui travaillent sont des travailleurs qui exercent un métier et pas juste des individus.
Ils font
individus.
Beaucoup d'efforts pour ça. Ils font. Ouais. Je vais donner encore une petite anecdote.
Allons-y.
Quand je suis devenu émérite, mais j'ai passé un examen, vous savez, de médical okay. De professionnel. Et puis il y avait un jeune homme qui était là, des médecins, et il avait été très sérieux. Et puis il me prend la main, nom, prénom, etc. Âge. Je lui dis, vous êtes bien délicat, jeune homme. Bon, bah, il me regarde et il fait. Et si vous m'appeliez docteur, ça se passerait peut-être différemment. Et effectivement, là, voilà, je dis oui, excusez-moi, docteur. J'ai repris sur un autre mode, un autre ton, et j'ai parlé au professionnel, j'ai pas parlé au jeune homme. Et c'est fondamental. Le travail, c'est ça. On endosse des rôles professionnels. Et derrière ce rôle professionnel, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une éthique du travail, il y a des valeurs du travail, il y a évidemment des savoirs, des connaissances, mais il y a tout un monde culturel. De ce travail. Et c'est ça que représente le rôle et professionnel qui est validé collectivement. Alors, si on vous traite comme un individu, montre-nous qui tu es, montre-nous qu'on peut miser sur toi, ce que les jeunes s'entendent dire maintenant, ben, ça n'a plus rien à voir.
Le lieu de travail, donc nous, on appelle ça l'exceptional place to work. L'idée, c'est de travailler sur l'expérience collaborateur depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie.
Donc là, on a parlé là depuis tout à l'heure un peu de ces team building et de cette question de comment on avait individualisé le travail. Et avec notamment, moi, une notion qui m'intéresse, qui est celle de savoir-être, qui ont l'air de plus en plus centrales pour les entreprises, pour les employeurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Comment est-ce que ça s'inscrit déjà dans notre discussion ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que les recruteurs s'entendent demander de trouver non pas le bon professionnel, mais la bonne personne. On leur dit, trouvez-nous la bonne personne. Parce que pour le former, on a les moyens, on peut les former, on peut faire des stages, etc., leur donner des tuteurs, mais on veut la bonne personne. Et la bonne personne, bon, je l'évoquais tout à l'heure, c'est celle qui est capable de comprendre ce qu'on veut de lui, capable d'être résilient, c'est-à-dire que même s'il a mal fait, qu'on lui dit qu'il a mal fait, bah, il va essayer de tenir le coup et d'être meilleur par la suite, d'être apte au bonheur, parce qu'on veut pas que les gens déprimés, pessimistes, etc. Donc, on mise sur les soft skills, comme vous dites, c'est-à-dire sur la personne. C'est la personne en tant que personnalité émotive, affective et ses capacités en termes de réactivité, intuition, bonne compréhension. Un bon professionnel, ça n'intéresse plus personne.
On explique qu'en fait, les savoir-faire seraient périssables.
Est-ce que tu sais qu'une compétence technique a une durée de vie entre 12 et 18 mois, selon le CDE ? Autrement dit, imagine, t'es ingénieur en informatique, ce que t'apprends en première année d'école d'ingénieur est déjà obsolète en troisième année.
En vrai, ce qui pratique les directions d'entreprise, c'est le changement perpétuel, le changement permanent. Pour tout un tas de raisons, qui est de montrer la capacité de se remettre en question, de rénover, de restructurer, d'être en phase avec l'accélération temporelle, l'accélération technologique, etc. Donc, le changement permanent, ça met en obsolescence les savoirs, les connaissances, l'expérience acquise. Et c'est vrai que ça se renouvelle très, très vite. Et c'est pour ça aussi qu'ils disent, nous, bon, le savoir, c'est pas le problème. C'est une personne qui est capable de s'adapter, de s'ajuster, d'écouter ce qu'on lui dit et de se conformer à nos attentes. Il y a cette idée que pour que les salariés n'aient pas la prétention de vouloir imposer justement leur expertise professionnelle, leur point de vue de professionnel, leur savoir-faire en disant non, non, nous on sait qu'il vaut mieux pas faire comme ça, on n'aura pas le temps, ou il n'y a pas assez d'effectifs, ou le budget est trop restreint, c'est pas sérieux, ben on va leur expliquer, mais vos compétences c'était pour avant, maintenant tout a changé, donc il faut faire confiance à qui ? Ben, aux spécialistes qui sont des cabinets mondiaux, internationaux, qui font de la veille permanente, et c'est eux qui concentrent tous les savoirs. Vous pouvez pas l'avoir, ça va trop vite. Eux, c'est leur boulot, justement, de voir comment tout change, comment tout évolue, comment s'adapter, etc. Donc, faites ce qu'ils vous demandent de faire, parce que c'est eux qui vont produire une organisation du travail qui reste taylorienne. C'est ça, un peu la contradiction énorme au sein du nouveau modèle managérial, c'est que d'un côté, on dit, on mise sur la personne, son inventivité, sa réactivité, son intuition, sa volonté de bien faire. Mais attention, dans le cadre d'une organisation qui reste très prescriptive selon la logique taylorienne, avec des procédures, des protocoles, des process, des nomenclatures, des codifications, des best practices, etc., etc., qui sont pensées en dehors de l'entreprise et qui s'imposent sur le lieu de travail.
J'ai l'impression que les soft skills sont quelque chose de plus inégalitaire parce qu'il y a beaucoup d'héritage social, beaucoup d'acquis familiaux.
D'habitus, comme on dit. Ouais.
Ouais, si on vient d'une famille dans laquelle on a appris, par exemple, je sais pas, dans les soft skills, ils sont aussi beaucoup demandés. Il y a prendre la parole en public, avoir de l'éloquence, savoir
se vendre,
aussi la communication non violente, savoir utiliser les bons mots en fonction de l'interlocuteur. Et du coup, j'ai quand même l'impression que par rapport à des savoir-faire ou des diplômes qui étaient plus objectivables,
c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Il n'y a plus de critères objectivables sur lesquels on puisse se fonder pour sélectionner et trier les gens au travail. Non, là, c'est le feeling, c'est l'attitude, c'est la manière dont la personne se présente, son regard, la manière dont elle s'habille, dont elle parle. Enfin, c'est la personne, la personnalité, c'est la manière d'être, effectivement.
On parlait tout à l'heure de vulnérabilité des salariés. Quelle est la place de ces soft skills dans le fait que le monde du travail soit devenu un monde plus hostile ? C'est-à-dire, quel rôle ça joue dans ces nouvelles stratégies de management que vous décrivez ?
C'est-à-dire que la base de ces soft skills qui sont réclamées, enfin demandées, c'est la docilité. Voilà. C'est savoir s'ajuster à la demande de la direction, être effectivement en situation de se positionner comme conforme et faire un travail sur soi tout le temps pour justement être conforme à ce qui est attendu de vous par la hiérarchie ou par la direction. Quand on parle en termes de personnalité, il y a toujours cette idée que ce qu'on vous demande, c'est en vous, c'est pas quelque chose qui s'extériorise à travers une formation, une expérience,
un diplôme,
etc. Non, c'est à l'intérieur de vous. Donc, il faut tout le temps montrer que on est compatible avec les exigences de l'entreprise, de la direction de l'entreprise, et que on est la bonne personne. Il faut toujours faire la démonstration qu'on est la bonne personne. C'est un peu la politique du mercenariat. Il faut s'engager totalement, mais ça peut être sur une période très limitée. Mais okay. On demande un engagement total, au sens se mettre en difficulté, se mettre en danger, accepter le goût de l'aventure. Ce qu'on demande aux gens aussi, c'est ça. C'est quand on dit résilience, c'est se remettre en question aussi, accepter de ne pas vouloir s'imposer ou imposer quoi que ce soit. C'est d'être malléable. Voilà. Ouais. Je crois que le terme exact, c'est d'être malléable. Or, une connaissance, elle n'est pas malléable.
La dernière partie que je voulais aborder avec vous, c'est sur votre ouvrage de 2021 qui s'appelle « L'insoutenable subordination ». En gros, vous expliquez qu'il faudrait remettre en question ce principe de subordination. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler et expliquer avec des mots simples un peu de quoi il s'agit ?
Oui, c'est très simple. Le lien de subordination est inscrit au cœur de du contrat salarial et il signifie tout simplement que vous devez obéir strictement en tant que salarié à votre employeur. Alors que cet employeur soit représenté par la hiérarchie ou directement, vous lui devez obéissance. Et moyennant cette obéissance, lui est déclaré responsable de votre intégrité physique et mentale. C'est-à-dire qu'il doit veiller sur votre santé. Le cœur donc de cette relation, c'est que dès que vous entrez dans une entreprise, dans le cadre salarial, avec votre formation, avec votre qualification, vos compétences, etc., vous entrez dans un statut de personne vouée à l'obéissance permanente. Ça ressemble beaucoup à la vassalité.
Mais du coup, il y a les nouvelles questions que pose le travail. Cette question de la subordination est souvent justement utilisée comme un moyen de pression sur l'employeur pour assurer la sécurité. Par exemple, les livreurs des Livrou,
oui.
On va essayer de les reconnaître comme subordonnés, justement.
Pour qu'ils obtiennent la protection et des garanties juridiques et des droits. Mais c'est terrible d'être là à ramper en disant je vous suis subordonné, s'il vous plaît, acceptez de me considérer comme un salarié. C'est quand même terrible. D'autant plus que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que la façon dont les employeurs français veillent sur la santé physique et mentale des salariés, c'est pas autant. Effectivement, comme disent les jeunes, c'est pas au top. 3 morts par jour dans des accidents mortels. Et sans parler des accidents non mortels, mais gravissimes. Sans parler du burn-out, sans parler des suicides au travail, etc. Donc, ils veillent pas si bien que ça sur la santé physique et mentale.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, remettre en question ce lien de subordination ? Parce que j'imagine que votre modèle, c'est pas celui du tous entrepreneurs, tout le monde à son compte.
Ah non, pas du tout. Alors, effectivement, moi, je considère que cette subordination, elle devient de plus en plus préoccupante pour une raison qui est liée à l'individualisation, qui est allée grandissante depuis les années 90 de l'autre siècle, et qui fait que cette subordination qui auparavant était vécue collectivement et mise un petit peu à distance parce que, par exemple, dans le monde industriel, les ouvriers ensemble disaient au contremaître « Ne nous embête pas trop parce qu'on va te coller une grève du zèle et tu vas voir tes résultats, etc. » Bon, il y avait une manière quand même de limiter, je dirais entre guillemets, l'efficacité de ce lien de subordination. Désormais, tout le monde est dans une situation personnalisée, psychologisée. Le lien de subordination devient une vraie laisse que chacun a autour du cou. De fait, la capacité maintenant que soit remise en question la logique, la rationalité économique dominante au sein de notre monde du travail, elle est très très faible. Parce que peut chacun subordonner pour, et en plus avec le télétravail, pour remettre en question et pour essayer d'inventer d'autres manières de travailler. Par exemple, on imagine les ingénieurs qui ont fait travailler chez Volkswagen pour truander les contrôles de pollution sur les moteurs. Bon, peut-être que certains d'entre eux voulaient dire non, c'est pas très correct, c'est pas très moral de faire ça. Mais quand on est subordonné, c'est pas facile de décider de dire non, je m'oppose à ça. Mais il est nécessaire de s'opposer maintenant pour des raisons qui sont liées à cette difficulté, la maltraitance au travail qui se révèle à travers le burn-out, à travers les suicides, etc. Mais aussi pour des raisons écologiques. On peut plus continuer à travailler de la même manière. Il faut bien repenser la rationalité économique. Elle ne peut plus être la même. Elle ne peut plus être celle d'une rentabilité à court terme qui dévore les ressources planétaires. Ouais. Il faut repenser le travail. Comment repenser le travail ? C'est avec tout ce qui participe concrètement à la production. Et il faut mobiliser les intelligences, les capacités, les expériences pour essayer ensemble de réinventer des modalités de travail moins prédatrices, moins maltraitantes. Et je pense que c'est quelque chose de impératif et urgent. Le lien de subordination, je dirais, de ce point de vue, malheureusement, c'est une sorte d'assurance-vie du patronat qui se dit on pourra continuer comme ça pendant des décennies, personne ne pourra nous opposer quoi que ce soit.
Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui trouvent que l'alternative à ça, c'est justement le tous entrepreneurs
C'est une catastrophe parce que les entrepreneurs n'ont aucun droit, aucune garantie, aucune protection. Je crois que le salariat, c'est quelque chose qui est pour l'instant historiquement nécessaire, mais le salariat doit être libéré de la subordination, véritablement libéré de la subordination.
En fait, l'entrepreneuriat, c'est avoir un autre type de subordination par la précarisation.
C'est ce qu'on appelle une dépendance économique,
okay.
Est tellement forte qu'elle subordonne complètement.
Ça ne rompt pas ce lien de subordination.
Non.
Du coup, quelles seraient les solutions?
D'accepter de faire du travail un enjeu politique. C'est un enjeu politique. Or, cet enjeu politique, il a été confisqué par le patronat. En 1998, le CNPF, qui est le Conseil national du patronat français, il s'est tout seul rebaptisé le mouvement des entreprises de France. Personne n'a rien dit. Or, ça veut dire tout simplement que le patronat est devenu les entreprises. C'est énorme au niveau symbolique, concret, etc. Et désormais, quand les représentants du MEDEF s'expriment, ils disent « nous les entreprises pensons que ». Nous, les entreprises, avons besoin qu'eux, et ils se sont finalement complètement appropriés le travail comme relevant de leurs décisions unilatérales. Et effectivement, ils ont, comme un magicien, fait disparaître l'enjeu politique que représente le travail. C'est la problématique des dirigeants d'entreprise que de sauvegarder les emplois et d'assurer la rétribution des actionnaires.
Comment on refait collectif? De manière, tout à l'heure on parlait des manières un peu manipulatoires de faire du collectif. Comment on refait ce collectif sans être dans la manipulation
Ne pas être dans la manipulation, il faut déjà enlever cette espèce d'entrave fondamentale que représente le lien de subordination. Il faut que les gens puissent donner leur avis sans le payer très cher. Tout de suite par faute professionnelle, licenciement ou pas de promotion pendant les 5 années prochaines. Il faut que les gens puissent ensemble évaluer ce qu'il faut changer, comment le changer. Vous savez, qu'est-ce que disait Taylor? Taylor disait « le savoir, c'est du pouvoir ». C'est pourquoi il ne faut pas laisser le savoir aux ouvriers dans les ateliers, parce que c'est leur laisser le pouvoir. On a enlevé le pouvoir par la subordination.
Est-ce qu'il suffit de dire qu'on supprime ce lien de subordination, ou est-ce que ça s'accompagne de tout un ensemble de mesures et de programmes imaginer et créer des espaces pour qu'une communication se fasse?
Oui, et comment se constitue la direction aussi? La direction, est-ce qu'elle est... Il y a des représentants, évidemment, mais réellement...
C'est un peu ça ma question.
Oui.
Comment est-ce que vous projetez chose?
Je ne cherche pas du tout à projeter parce que je pense que c'est le travail des citoyens travailleurs.
Okay.
C'est à eux d'inventer le nouveau monde du travail. C'est eux qui ont les connaissances, c'est eux qui vont trouver des solutions.
Ok, donc c'est pas forcément un modèle avec
modèle
d'entreprise unique.
Instaurer une dynamique qui reposerait sur la mise en place d'un mouvement de l'intelligence collective pour essayer de trouver des solutions face à ce qui est quand même une situation dramatique, tragique, avec la maltraitance, les suicides au travail d'un côté et le réchauffement climatique et l'idée qu'on va devoir aller sur Mars pour survivre.
En fait, je me dis que si on enlève ce lien de subordination, potentiellement on aura enlevé des mots. Mais la réalité, elle n'aura pas bougé parce que la pratique pourra se renouveler, etc. Est-ce qu'il y a des instances, je sais pas, de démocratie en entreprise, de représentativité qu'il faut quand même imposer?
Un contrat d'engagement réciproque suppose de redéfinir les différentes parties prenantes. Quelle est leur place, leur rôle, leurs droits? C'est ça qu'il faut repenser aussi.
Par exemple, si on prend l'exemple de la restauration qui est souvent utilisée pour dire Il y a beaucoup d'emplois vacants, on manque de gens qui viennent bosser.
Les gens sont feignants.
Est-ce que c'est peut-être un bon exemple pour illustrer comment ça pourrait se passer?
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une négociation plus ouverte.
Mais repenser ce qu'est un restaurant et avec les consommateurs. Est-ce que les consommateurs ont vraiment besoin de dîner à minuit? Bon, on peut trouver d'autres solutions. Pourquoi est-ce que les gens veulent pas aller dans la restauration? C'est parce que c'est des horaires épouvantables, ils ont pas de vie sociale. On peut repenser ces choses-là.
Okay.
Repenser le mode de production et de consommation. Est-ce que ça rend tellement heureux que ça justifie d'imposer des horaires difficiles aux travailleurs
Je comprends.
C'est ces choses qu'il faut penser.
On est en train d'arriver sur la fin de cet entretien et avant de se quitter, laisse-moi te dire deux mots sur le Ulule de Réflexion Basse. Afin de pouvoir publier plus régulièrement des formats sans sponsor comme celui-ci et d'aller vers un modèle de plus en plus indépendant, j'ai mis en place un système de dons par abonnement avec plein de contreparties très cool pour les gens qui soutiennent le projet. Alors, si t'as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour sur le lien en description. On arrive vers la fin pour conclure, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui écouterait, qui se reconnaîtrait dans votre discours?
Déjà, sortir un peu de cette vision égotique où c'est soi-même contre tout le monde. Essayer de reprendre un peu conscience du fait qu'une société, elle est constituée par tout le monde et de la qualité de la coopération et de l'interaction, des interactions entre tous les membres de la société. C'est là-dessus que ça repose. Donc, okay. Être à l'écoute des autres, c'est être permettre que les autres soient à l'écoute de nous-mêmes. Donc, la vie, c'est pas que le bonheur personnel, c'est aussi avoir du bonheur à ce que tout le monde soit entraîné par une même dynamique qui aille vers le meilleur et qui en laisse pas trop sur la route, quoi.
Et est-ce que pour finir, vous avez des recommandations de ce que vous voulez, de films, de séries, de livres, de choses à voir, à écouter, à lire?
Ben, si on veut comprendre les dangers de ce qui nous menace maintenant, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui est absolument épouvantable, qui s'appelle « Ceux qui travaillent ». C'est l'histoire d'un cadre qui gère la logistique de grands bateaux de transport de matière et qui est confronté à une décision morale épouvantable. À un moment donné, il doit prendre une décision.
Okay.
Et voilà, il doit la prendre tout seul. Je trouve que c'est un film intéressant. C'est pas du tout, il n'y a pas de solution là, mais il montre jusqu'où peut aller l'enfer au travail.
Ok, bah, je vais regarder ça avec plaisir. Bah, trop bien. Est-ce que vous avez un mot pour conclure ou sinon on peut s'arrêter là?
Ben, moi, je mise pour transformer les choses beaucoup sur deux catégories. Les jeunes qui sont pas encore entrés sur le monde du travail et qui ont bien pris conscience de l'importance des enjeux écologiques notamment, et les anciens qui sont sortis, qui sont plus les otages du monde du travail et qui pensent à l'avenir de leurs enfants et petits-enfants, pensent qu'on peut avancer avec eux.
Eh ben, très bien, merci. Merci.
Voilà.